Quand on est un pro, on doit pouvoir saisir toutes les opportunités. Avec des volumes de chargement jusqu'à 22 mètres cubes, les utilitaires Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master, assemblés en France, répondent à tous vos besoins. Découvrez notre gamme de véhicules utilitaires Renault en version thermique et e-tech électrique, prête à partir. En ce moment, 2 mois de loyer offerts.
Volume selon version, selon stock disponible. Deuxième et troisième loyer offert pour un crédit bail après paiement premier loyer d'au moins 5% de la valeur financée. Si accord DIAC, valable du 1er au 30 juin dans les points de vente participants. Conditions sur professionnel.renault.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On commence avec Apolline Matin. Le parti Les Républicains est-il mort? Hier, le numéro 2 du parti, Aurélien Pradier, a annoncé qu'il quittait la formation car il considère qu'elle est morte et ne parle plus aux Français. Mais Jean-François Copé, le maire LR de Meaux, croit lui à une recomposition d'une droite non affiliée au RN.
C'est une tragicomédie qui n'a plus aucun sens. Quand vous avez le chef supposé du parti, Éric Ciotti, qui tout seul, sans en parler à personne, au rebours de tout ce qu'on dit depuis toujours, c'est-à-dire un refus d'alliance avec l'extrême droite, décide à TF1, sans en parler à personne, de se barrer pour aller avec le Rassemblement National. Tout le monde a compris que c'est parce qu'il voulait être ministre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la comédie humaine. Voilà, c'est Balzac. Mais de toute façon, LR, ce sera plus jamais avec Éric Ciotti. Et puis, de toute façon, tout ça va complètement se recomposer. Il faut reconstruire une partie de droite de gouvernement totalement étanche avec l'extrême droite, mais qui surtout propose aux Français un projet d'efficacité publique.
Thierry, est-ce que les LR sont morts?
Oui, ça fait déjà un petit moment, je pense. C'est-à-dire que, en fait, la majorité présidentielle, enfin même d'ailleurs, la pensée même d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est de faire voler en éclats les partis établis. Il a réussi à le faire pendant un certain temps avec son en même temps. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Il a voulu prendre de court en pensant que la gauche resterait très désunie parce qu'il n'aurait pas eu le temps de se mettre en ordre de bataille et que ça éclaterait la droite. Ça a en grande partie éclaté la droite, en l'occurrence les Républicains qui se sont scindés en deux et qui du coup n'existent plus parce que je vous signale que juridiquement, c'est pas encore tranché. C'est-à-dire que juridiquement, Ciotti est toujours président des Républicains. Donc on arrive à un espèce de truc un peu kafkaïen.
Tragique, comme il dit.
Voilà. Et je pense que
LR aussi.
La droite républicaine devra se reconstruire sur d'autres bases, d'une autre façon, et surtout avec d'autres personnes. Parce que je pense qu'il y a aussi un besoin de renouvellement du personnel politique. Et je pense que David Sitar fait partie des gens qui peuvent incarner ça. Mais il y en a plein d'autres.
Est-ce que la droite républicaine n'est pas juste devenue Renaissance?
Non.
Vu que en tout cas les républicains des républicains sont allés avec Macron, c'est-à-dire des Constance Le Grip, des Rachida Dati,
Darmanin, Bruno Le Maire.
Voilà, Bruno Le Maire, Darmanin. En fait, ils ont un peu récupéré les meilleurs.
Avec Clément Beaune qui sont chez Renaissance et qui se viennent pas des républicains.
Voilà. Et de l'autre côté, en fait, ce qu'a fait Macron, c'est qu'il allait chercher les meilleurs du PS, on va dire, et les meilleurs de LR, selon lui.
Il a siphonné les LR et le PS.
Oui.
Selon lui, et le but était de les détruire et d'être lui le seul normal au milieu des extrêmes. Donc évidemment que LR est mort, mais LR est mort quand Rachida Dati a rejoint le gouvernement déjà.
Même avant.
Ils ont un tel problème d'ego aussi parce qu'ils sont tellement nombreux avec leurs égos que c'est compliqué.
Ah ouais.
Et LR est mort. Vive LR. Pour paraphraser cette phrase.
Non mais Jean-François Copé, en tout cas, lui désespère pas, très clairement. Hein.
Oui, alors je suis pas sûr que Monsieur Copé soit l'avenir des LR.
Je sais pas.
Vous vous souviendrez de la coco-e, le.
Oui.
Vous savez le c'est la coco-e, c'est
entre François Fillon, Copé, la guerre qui a duré des mois.
La commission qui était chargée de décider qui avait gagné.
Qui était le président des LR.
Ils avaient tellement trafiqué tous les deux. Enfin bref. Enfin. Supposé. C'est ce qui s'accusait les uns les autres. Non, alors, moi, le LR actuel est mort, ça, sans aucun doute, mais un héritier du RPR, de l'UMP ou des Républicains va ressurgir.
Un gaulliste?
Enfin, cette droite, en fait, une droite.
Ah, c'était la droite gaulliste, hein.
Non, mais une droite de droite. C'est-à-dire une droite républicaine, mais iconiquement de droite, libérale.
Sarkozy?
Oui, non, mais pour une raison très simple. C'est que, oui, le macronisme a siphonné les LR, mais le macronisme va disparaître avec la fin du quinquennat de Macron. Ou même, peut-être, le macronisme va terminer le 8 juillet. Bah, oui, enfin, le 8 juillet, il risque de se terminer aussi, parce qu'il n'y aura pas assez, il y aura que très peu de députés. Mais de toute façon, une fois que le quinquennat de Macron sera terminé, tout ça va exploser, la fin du macronisme. Le macronisme, je ne pense
pas. En tout cas, je me demande où un certain nombre de ténors actuels du gouvernement type Darmanin,
où va-t-il aller? Mais Darmanin pourrait être le créateur d'un nouvel...
Gérald Darmanin a d'ores et déjà dit, avant même le résultat des législatives, de toute façon, je ne serai plus ministre le 8 juillet.
Mais oui. Mais
donc, il va faire quoi?
Mais non, mais il est fort... Moi, je suis persuadé qu'il restera. Parce que le problème, c'est qu'il y a plusieurs nuances de droite. Les LR, historiquement, sont républicains sur les questions, on va dire, régaliennes. Mais économiquement, ils sont des libéraux. Comprenez, c'est clair. Grosse différence avec le Rassemblement national qui ne sont pas des libéraux économiquement, puisqu'ils sont très très interventionnistes, avec un programme économique qui par moment se rapproche de la gauche. Donc ça n'a rien à voir. Donc les LR, ils ont mis l'eau dans leur vin. Mais d'accord, mais enfin, mais ce ne sont pas des libéraux classiques comme sont les Républicains, comme étaient le RPR ou l'UMP. Donc il y a toujours une place en France pour une droite de ce type. Et oui, pourquoi pas Darmanin, pourquoi pas Disnard, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, il y a des gens qui sont chez LR qui ne sont ni proches de l'extrême droite, ni proches du macronisme, ni proches du centrisme.
Les GG, François Hollande, Premier ministre. Réjouissant ou affligeant? L'ancien président de la République était invité hier soir de BFM Télé. Il a une chance inespérée de revenir à l'Assemblée, en tout cas ça c'est sûr, puisqu'il est candidat dans la première circonscription de Corrèze. Et actuellement, en s'opposant publiquement à Jean-Luc Mélenchon, certains l'imaginent, pourquoi pas, Premier ministre en cas de victoire du nouveau Front Populaire. Et pour le chef d'entreprise Mehdi Guezard, nous avons besoin d'hommes d'expérience au sommet de l'État.
Le problème du pays aujourd'hui, c'est qu'il manque, d'hommes d'État, quoi. On manque véritablement d'hommes d'État. On a une offre politique, en matière de personnes physiques, hein, assez pauvre. Comme il a été président de la République, il pense qu'il a cette stature d'homme d'État et qu'il peut aujourd'hui venir aider ou apaiser le pays.
Bon, Fred, François Hollande, Premier ministre.
Ben non, il a été président de la République, quoi.
Bah et alors?
Mais excusez-moi, j'ai une certaine vision de la République. Je pense que quand on a été président de la République, on ne peut pas prendre un boulot en dessous.
Voilà, c'est un peu l'archouma, ouais, pour lui.
Oui, alors je sais
la
pas
honte.
Quoi ça.
Ah, la honte. Ouais. C'est l'arabe.
Ben oui, enfin, je suis désolé, ça me... Voilà, il a été président.
Mais il est trop stylé, François Hollande, moi je l'adore.
Alors ça, c'est très intéressant ce que dit Élise. Pourquoi tu l'adores?
Parce qu'en fait, je trouve que...
Rappelons que quand François Hollande était président de la République,
tout le monde le détestait.
Tu étais à peine né.
Non, attends, j'avais bien 18
il a terminé,
ans.
Il a terminé au moment où il dit « Bon, bah, je ne me représenterai pas. » On l'appelle Monsieur 3%, parce qu'il frôle les 3%.
Non, 3%, c'est quand il était candidat à la candidature. Il est parti à 4%.
4%, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Il a l'air de
venir... élu et bien élu.
4% d'opinion favorable.
Oui, mais
et
pour moi...
Et toi, aujourd'hui, Élise, ce n'est pas reproche. J'essaie de comprendre. Toi, aujourd'hui, tu as quel âge?
30 ans.
30 ans. Donc, quand il est parti...
J'avais 25 ans. 24, 23. 23 ans. 23 ans.
Et toi, tu dis aujourd'hui, je l'adore.
Bah, en fait, pour moi, il incarne François Hollande la dernière fois que j'ai vu la gauche. En fait.
En fait, c'est une madeleine de Proust, pardon.
C'est une madeleine de Proust. Bah oui, mais je suis désolée, il incarne la gauche qui existait, en fait. Bah,
et qui était torturée par les fondeurs.
Le Parti Socialiste, il n'existe plus, ma belle. Donc, aujourd'hui... Ouais, désolée, c'est un réflexe que j'ai. Ma belle.
Mais
en tout cas, aujourd'hui, il nous reste la France Insoumise, qui est complètement terrorisante. Le PS n'existe plus, à part pour Raphaël Glucksmann. Donc, pour moi, François Hollande, il incarne une époque où le Parti Socialiste existait encore. Et moi, je suis une socialiste dans l'âme. Donc, il incarne l'époque où j'avais de l'espoir dans ce pays.
Alors, excuse-moi, mais Hollande qui incarne la gauche, Thierry, ça me fait quand même doucement rigoler. C'est celui qui a renoncé à tous ses programmes, toutes ses promesses en disant « Mon ennemi, c'est la finance, il n'a rien fait derrière. » C'est le fossoyeur de la gauche républicaine.
Ce sont les frondeurs qui...
Je pèse mes mots. C'est le fossoyeur parce qu'il s'est laissé justement déborder par les frondeurs. Il n'a pas eu le courage politique, le poids politique de gérer les frondeurs comme il aurait dû les gérer, ça c'est clair. Non mais dire
attends,
que
mais tous les présidents,
il n'est là,
enfin,
il n'est là
aussi,
que pour retrouver un poste en vue éventuellement d'avoir un petit trou de souris pour 2027, mais en tout cas pas pour aller à Matignon. Ce serait d'ailleurs le pire des scénarios pour lui parce que aller s'user à Matignon pendant 2-3 ans en attendant éventuellement de revenir à la présidentielle, il ne peut prendre que des coups.
Ah, tu crois que son objectif c'est de se représenter en 2027?
Moi je pense
2027
qu'il veut une place au Parlement pour continuer à exister dans le jeu politique. Et ensuite, on verra bien. Mais je pense que dans
moi,
sa tête, il y a l'idée
aussi, peut-être, de sauver
d'un petit
la gauche.
Trou de souris. N'oubliez pas, il a un truc qui est fondamental dans sa psyché, c'est la revanche. Je pense qu'il a envie de prendre sa revanche. Et donc, il rêve de ça.
Quand même. C'est pas très classe quand on a été président de la République.
Mais il ira pas à Matignon.
Il faut garder une certaine hauteur. oui. par rapport à ça.
Mais il n'ira pas
maquiller. Il a refusé, par exemple, de siéger au Conseil constitutionnel. Je trouve que c'est une erreur. D'ailleurs, tu vois, donc je pense que...
C'est synonyme de retraite. Quand tu vas au Conseil constitutionnel, après, tu ne peux plus revenir en politique.
Oui,
donc l'idée, c'était quand même de rester dans le jeu politique. Et s'il se présente là, en faisant allégeance au Front populaire et à tout ce que ça représente.
C'est terrible.
Moi, je pense que c'est pour revenir dans le jeu. Pour revenir dans le jeu.
Apolline Matin, le climat est-il encore un problème majeur pour les Français? Alors que la France a réussi à baisser de 5% ses émissions de gaz à effet de serre, le résultat des élections législatives pourrait freiner cette bonne nouvelle en faisant passer au second plan, voire au troisième ou au quatrième, la transition écologique. Mais pour l'essayiste Antoine Bueno, en dehors de leur vote, les Français se sentent très concernés par cette problématique.
Dans l'esprit des gens, ça l'est. Hein. Vous avez des enquêtes qui sont faites qui montrent que la transition écologique, c'est un impératif pour la majorité des Français. Et même des Français qu'on ne soupçonnerait pas d'être dans ce camp-là, à savoir les agriculteurs. Il y a une très grosse majorité d'agriculteurs qui pensent et qui savent que la transition environnementale est une priorité absolue. En revanche, l'écologie a du mal à faire florès d'un point de vue politique. Mon sentiment à moi, c'est que l'écologie n'est pas adaptée au système électoral et qu'il faudrait un autre mode de gouvernance, qu'il faudrait de la démocratie directe, parce que aujourd'hui on le voit très très bien d'ailleurs avec les scores du RN et puis d'autres partis un peu partout dans le monde, c'est un repoussoir politique plutôt qu'un facteur d'adhésion.
Élise, au moment même où l'on parle, là dans le contexte actuel, est-ce que tu crois que l'écologie est passée au troisième, quatrième, cinquième plan des préoccupations des Français?
Pour les Français, l'écologie n'est pas passée au troisième plan. C'est plutôt pour les candidats que l'écologie a disparu, parce qu'ils passent leur journée à calculer la taille
ils ont pas voté de écolo, leur steak.
Comment?
Les écolos ont fait 2%.
Mais parce que les candidats aussi ne sont pas bien.
J'exagère,
et de base, je ne comprends pas pourquoi il y a un parti écologiste. Ça devrait être la préoccupation de tous les partis. D'accord?
Ouais, ça ne l'est pas.
Bah, ça devrait l'être. Ouais, pour les Français, c'est une des préoccupations principales. On regardait, il y avait un sondage qui est sorti pendant les européennes, par exemple, qui expliquait ce qu'étaient les préoccupations principales des Français sur la thématique des européennes. Un sujet, par exemple, qu'on voit tous les jours aux infos, qui est le conflit israélo-palestinien, était très loin en dernier, tandis que le pouvoir d'achat et l'écologie étaient en premier.
C'est juste que les candidats... Encore une fois, pourquoi aux européennes? En plus, tu votes pour des élections européennes. Mmh. L'enjeu n'est pas uniquement national, on le sait, ce sont des décisions qui vont être prises pour l'ensemble de l'Union, qui vont parfois s'imposer à notre pays. S'il y a bien un endroit où l'écologie peut avancer,
c'est en Europe.
C'est depuis Bruxelles.
Raphaël Glucksmann
portait. Pourquoi les écolos font 5%?
Parce que Raphaël Glucksmann portait un programme qui était aussi écologiquement plutôt adapté. Peut-être que LFI.
Tu crois que voté Glucksmann, c'était pour son programme écolo?
En tout cas, je pense que beaucoup de gens ont voté Glucksmann parce qu'il incarnait justement une gauche assez modérée qui n'était ni dans l'extrême de LFI, ni macroniste. Comment?
Cette gauche-là, puisqu'elle fait partie du Nouveau Front Populaire.
Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les candidats et les médias essayent de dicter la direction des élections, alors qu'en réalité, ce que demande le peuple, c'est justement que le climat soit un sujet majeur. Mais il n'est pas adressé. Quand on regarde des débats, aujourd'hui, les débats aux législatives, c'est à peine adressé. La présidentielle de 2022, je me rappelle, j'avais une interview de Macron, je crois que c'était sur TF1 ou France 2, il ne lui avait pas posé une seule question sur l'écologie. Mmh. Et je me suis dit, mais attends, t'as le président pendant 2 heures, tu peux lui demander ce que tu veux. Pas un truc sur l'écologie. C'est pas la préoccupation des médias, en fait.
Fred.
Ce n'est pas la préoccupation des médias, ce n'est pas la préoccupation première des Français.
Si.
Qui sont deux, le pouvoir d'achat et la sécurité.
Oui, et après, t'as l'écologie.
Non, mais.
Ma belle.
Il y en a au moins deux. Mon beau, s'il te plaît. Tu vois, donc voilà. Donc, si les écologistes font si peu de voix, c'est peut-être à eux de se poser la question sur la manière dont ils abordent l'écologie. Voilà. Ce qu'il y a de bien, oui, parce qu'elle c'est une écologie extrêmement politique, au lieu d'être pragmatique d'un point de vue écologique, donc les gens, ça les repousse, elle est très punitive. Après, les gens, parce qu'on voit très bien le discours du monsieur qui est invité chez Apolline ce matin, c'est aussi, oui, avec le RN, c'est dangereux pour la planète, etc. On sent tout le petit discours qu'il y a derrière. Bon, le RN... Et pour le nucléaire, donc au moins à ce niveau-là.
Le sujet de l'écologie, le problème, c'est qu'il n'est pas assez intéressant pour les politiques. Tant qu'on n'aura pas une météorite face à nous, les politiques, ils s'en foutent.
Elle arrive.
Oui.
Enfin, on a les feux de forêt, on a quand même.
On a les feux de forêt, oui.
Vous alertez, quand même.
Mais. Allez. Voilà, ouais, vas-y.
Non, je t'en prie.
Non, c'est bon, t'inquiète.
Ma belle.
Merci. Les GG, on va parler des JO, la Seine, toujours non baignable. Voilà. Désespérant ou inquiétant. À cause d'une fin de printemps très pluvieuse et qui ne va pas s'arranger ce week-end, le fleuve a un débit beaucoup trop élevé et n'est toujours pas donc baignable à 29 jours du début des JO. Une situation inquiétante pour les athlètes, selon l'enseignante Barbara Lefebvre.
Je m'inquiète pour les athlètes. Parce que vous avez des athlètes du monde entier qui se préparent pour ça.
Oui.
Et là, qu'est-ce qu'ils doivent se dire, ces gens-là, quand ils se préparent? Ils doivent se dire, bon, alors, on sait déjà pas si on va pouvoir avoir notre compétition dans les bonnes conditions.
Ils peuvent pas s'entraîner dans la Seine,
ils peuvent pas s'entraîner sur le lieu de compétition. Non, mais enfin, est-ce qu'on se rend compte, ne serait-ce que par respect pour ces athlètes, qu'on les met dans une situation? En plus, on leur donne même pas de plan B, parce qu'à la limite, on leur dirait, voilà, OK, les gars, mais sinon, allez vous entraîner là, parce que de toute façon, c'est là qu'on le fera, il y aura pas de problème. Au moins, qu'ils y aillent et qu'ils s'entraînent dans le plan B. Ah, mais non, ils sont là sur les plateaux, Madame Oudéa Castéra. L'expérience spectateur sera formidable. Oui, mais l'expérience athlète, elle va être moins formidable. Alors, ils peuvent même pas s'entraîner.
Alors, Thierry, on est à 29 jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Ça commence à faire court, là, comme délai, quand même, non? Et puis, on est même à moins que ça, parce qu'on est à 19 jours, à peu près, de la baignade d'Anne Hidalgo, qui a dit qu'elle se baignerait vers le 15 juillet.
La semaine du 15 juillet.
Ah, il reste deux semaines.
C'est l'épisode 354 de « On a les yeux plus gros que le ventre ». Depuis le début, tout le monde a expliqué que de faire quelque chose dans la Seine, rendre la Seine baignable, faire une cérémonie d'ouverture sur la Seine, était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et je pense que pour ça, il y a des bonnes raisons. Si ça n'a jamais été fait, c'est peut-être tout simplement parce que c'est très compliqué, voire impossible. Ok, ils sont fixés ça comme objectif, je dirais, emblématique, de communication, etc. pour dire on va être...
Il n'y a pas que la communication, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est entre 2 et 3 milliards ça coûtait aussi. Hein.
Alors, je vous cache, en plus, évidemment, le coup, mais on va pas rentrer dans le débat, parce que sinon on va faire du geobashing, ça va pas être cool. Mais je pense que, ça va se finir comment? Je pense qu'ils vont sanctuariser un tout petit endroit, qu'ils vont filtrer à mort pour que les athlètes puissent faire leur compétition, et puis tout le reste va passer à la trappe, et aucun
pollution. Ils vont être tonne chlore,
mais voilà. Toute la Seine était censée être baignable?
Non. Ah ben une grande portion de la Seine. Mmh. Mais c'est un mythe. Enfin, moi j'ai rencontré un scaphandrier qui travaille régulièrement dans la Seine.
Un scaphandrier.
Mais oui.
Tu as des relations.
C'est un métier très rare mais très intéressant.
Ah oui, ça j'imagine. Ouais,
et bien il m'explique qu'il plonge régulièrement dans la Seine. Il me dit, moi j'y suis encore allé, je ne vois pas mes mains. C'est-à-dire que quand il plonge, il voit pas ses mains. Donc comment voulez-vous rendre ça baignable? C'est plein de vases et plein de matière fécale. On n'est pas rendu.
Et de vélo et de
caddie. Fred, tu n'es pas inquiet parce que
je ne sais pas nager.